cistercien en Savoie. Aujourd'hui, il vit à Marseille, entouré d'enfants maghrébins à qui il fait l'école. Avec d'autres, il a fondé la Fraternité Saint-Paul, un nouveau type de communauté monastique. Sabine Petermann est allée rencontrer ces moines pour A Vue d'Esprit, des moines d'un nouveau genre, une série réalisée par Françoise Yenny.
À Vue d'Esprit. Pierre-Yves Moret.
Bonjour à vous, bienvenue pour ce dernier volet auprès des moines des cités. Sabine Petermann, toute cette semaine, nous avons suivi en compagnie d'Henri Quinson, un ancien trader reconverti à la vie monastique. Un parcours singulier, nous l'avons dit plusieurs fois, qui va de ce qu'on appelle la réussite à ce dévouement pour les autres.
Oui, c'est un parcours parfois vertigineux qui conduit ce garçon de 28 ans, millionnaire, comblé par l'opulence et les bonnes manières des familles bourgeoises, à devenir un moine modeste, sans soutane, dans les quartiers les plus pauvres de Marseille.
Alors hier, on entendait Henri Quinson et Karim Debrouquer, son confrère, comment ils ont ensemble fondé la Fraternité de Saint-Paul il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, vous nous l'avez dit aussi, ils sont quatre frères qui travaillent à mi-temps dans l'enseignement. Ça leur permet d'ouvrir leur appartement HLM au voisinage l'après-midi pour y faire de l'appui scolaire, entre autres. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau, ce genre de communauté ?
Alors oui et non, c'est pas nouveau parce que la communauté repose sur les mêmes fondements que les traditions monastique habituel, c'est-à-dire le célibat, communauté de prière et de travail, des frères qui vivent ensemble. Pourtant, leur originalité, c'est de s'enraciner dans un lieu bien particulier. Ici, c'est la banlieue, avec une population plutôt démunie, émigrée d'Algérie, de Tunisie ou des Comores. Alors, bien sûr, on connaît les clichés sur les banlieues, clichés plutôt ambivalents sur la réalité qu'ils reflètent, puisqu'ils traduisent et parfois distordent la réalité. Il n'empêche que la cité est un lieu tout de même exposé, où solidarité et violence se côtoient au quotidien. Donc, les difficultés sont bien réelles. Hier, Karim Debrouquer nous disait qu'environ 50% de la population de ces quartiers est au chômage. Et parmi cette population, 70% est d'origine musulmane. Donc c'est un enracinement plutôt interreligieux. Et en ce sens, c'est un phénomène nouveau de voir apparaître dans des grandes villes de petites communautés de ce type qui s'enracinent dans un contexte sociologique très nouveau.
Alors on imagine que c'est un défi de s'installer dans des conditions difficiles. Et pour une communauté chrétienne aussi, de se retrouver immergée dans un environnement qui n'est pas a priori favorable, disons-le comme ça, au christianisme.
Oui, c'est effectivement un des enjeux extrêmement importants pour la Fraternité Saint-Paul. Pour Henri Quinson et Karim Debrouquer, le contexte de la migration en Europe est un terreau extrêmement propice pour permettre à l'Église chrétienne de se renouveler et de trouver de nouvelles formes d'expression. Et la Fraternité Saint-Paul en est une. Alors je vous propose de retrouver Henri et Karim dans leurs quatre pièces qui fait chaque jour porte ouverte à tous les voisins, adultes, enfants, tous ceux qui ont envie de venir leur rendre visite. Vous verrez, c'est un lieu extrêmement vivant. On retrouve Henri Quinson. Henri Quinson, l'église se renouvelle. La Fraternité de Saint-Paul, c'est un signe de ce renouvellement ?
On pourrait dire que d'abord on habite un lieu qui date de 1962, moi je suis né en 1961, donc le contexte immédiat, concret, ça, c'est pas de la théorie, c'est un univers nouveau. Donc il y a 70% des logements là où on habite qui ont été construits très rapidement au moment des rapatriements d'Algérie, qui est un événement qui a beaucoup marqué l'histoire de France avec l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est un afflux violent de gens qui arrivent dans un contexte violent. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de nouveau et par rapport auquel il faut se situer. Et puis pour ce qui est de l'Église, nous, on ne fait pas une course de la nouveauté. Il ne s'agit pas d'être original pour être original. Ce qu'il faut, c'est être pertinent par rapport à un contexte donné. Et dans un monde qui est de plus en plus urbain, il faut se poser la question d'une vie monastique, sans doute, par rapport à ce monde urbain. Et en particulier avec ce qu'on appelle les banlieues, ou ici les quartiers nord à Marseille, être capable de regarder concrètement la cartographie de la présence des communautés, en particulier des communautés les plus jeunes, et de bien s'assurer qu'elles ne sont pas toutes dans les beaux quartiers. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté au sens où c'est une démarche chrétienne. Depuis 2000 ans, il y a ces démarches dans l'Église. Mais il s'agit bien de la réajuster par rapport à cette réalité nouvelle. Ça, c'est un premier point qui me paraît important.
C'est un nouveau type de communauté quand même.
Disons, il y a plusieurs choses. D'abord, on a ces sept piliers qui décrivent un peu notre genre de vie de manière très concrète. Ces sept piliers, pris séparément, n'ont rien d'original ni de nouveau. Par exemple, le célibat, il y a toujours eu des célibataires dans l'Église. Le fait de prier, tout le monde a prié depuis l'existence du judaïsme, du christianisme, mais ce n'est pas une originalité non plus. Bon, par contre, le choix du lieu, c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport à la tradition monastique, c'est-à-dire la combinaison de ces piliers, c'est peut-être ça l'originalité. C'est-à-dire à la fois avoir une dimension monastique, mais en même temps le combiner avec le choix d'un lieu qui est un lieu de type nouveau, et qui a des résonances évangéliques, parce que c'est un lieu de conversion, c'est un lieu d'engagement, ça n'est pas neutre d'aller habiter dans ces cités, ça proclame quelque chose, ça c'est quelque chose peut-être de nouveau par rapport au contexte. Et puis aussi, je crois, le fait de vouloir revenir à une espèce d'essentiel de la vie évangélique, qui est quelque chose qu'on retrouve très fort, je pense, dans le protestantisme, et qui me paraît très juste, c'est-à-dire à chaque génération, essayer de revenir l'évangile à la main et puis le contexte nouveau dans l'autre, essayer de se redéfinir un style de vie chrétien et aussi une manière d'annoncer Dieu qui soit audible, compréhensible, pertinente dans le monde dans lequel on est. Et de ce point de vue-là, notre communauté, oui, elle est nouvelle, c'est pas une course de l'originalité, mais c'est essayer d'être ajusté à la fois par rapport à la réalité nouvelle qui nous entoure et puis aussi par rapport à la théologie, parce que dans l'Église catholique, il y a tout un enjeu théologique. Avec Vatican II, on a invité les chrétiens à s'ouvrir au monde. Comment est-ce qu'on arrive à vivre ça quand le monastère est caractérisé essentiellement par la notion de clôture ? Donc souvent on a parlé de fuite du monde, etc., des notions qui sont quand même assez mal ajustées à cette pensée théologique qui paraît beaucoup plus proche de l'évangile. Donc c'est un retour aux sources. En même temps, ce retour aux sources pose la question de savoir, bon, qu'est-ce que ça veut dire une présence au monde quand on vit la vie monastique ? Donc de ce point de vue-là, nous on a fait un choix, c'est-à-dire c'est une présence à un certain monde, c'est-à-dire habiter parmi les pauvres, les étrangers, les gens qui ne sont pas chrétiens. Ça aussi, c'est une démarche d'exil par rapport à sa propre Église. Et donc, c'est un peu cette notion de désert, se décentrer, ne pas vouloir systématiquement recréer de la chrétienté, mais au contraire, aller aux marges de l'Église, parce que c'est là qu'on peut être justement, de manière la plus sûre, signe d'Église. Donc ça, à mon avis, c'est une évolution aussi de la théologie et une espèce de mise en pratique de cette théologie de Vatican II.
Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui vivent de telles expériences ? Est-ce que c'est une innovation, une mouvance ?
Je crois que souvent, il y a un décalage générationnel, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un mouvement dans l'Église, par exemple l'Église catholique, la mission ouvrière, les prêtres ouvriers, et donc des personnes qui ont décidé d'aller habiter aussi des cités HLM, mais dans l'idée d'une insertion par le travail. À l'époque, en France, on avait le plein emploi, il y avait un monde ouvrier très important. L'essentiel sur le plan intellectuel, c'était une conversation avec les athéismes, en particulier avec le communisme en France, le marxisme. Tout ça, c'est quelque chose qui a disparu, ou presque. Et donc, nous sommes dans des cités HLM toujours, mais avec des gens, pour beaucoup d'entre eux, au chômage ou avec des emplois précaires. L'insertion par le travail, c'est très difficile de rejoindre les gens par le travail, parce que souvent, le travail est illégal, le travail est précaire ou le travail est inexistant. Donc, il s'agit de revenir à des logiques de territoire, et il semble que la meilleure manière de le faire, c'est de revenir justement à la tradition monastique, qui est un célibat assumé dans un lieu. On parle des pères du désert, donc on les situe par rapport à un lieu et non pas par rapport à un métier, par exemple, ou par des tâches caritatives. C'est pas les pères enseignants, c'est pas les pères hospitaliers. Donc c'est les pères du désert. Donc retrouver la notion de lieu et de territoire. Et donc de ce fait-là, il me semble que certains aspects de la vie monastique peuvent se marier assez bien avec le nouveau contexte social. Alors ça, c'est nouveau, oui, parce qu'en même temps, ça ressemble à la mission ouvrière, mais en même temps, c'est différent parce que c'est pas une insertion par le travail, c'est plutôt de l'hospitalité sur un territoire. Et puis aussi, c'est pas un affrontement ou une confrontation ou un dialogue avec le marxisme, mais c'est plutôt, au contraire, l'interreligieux, le lien avec, en particulier ici à Marseille, nos frères musulmans, aussi nos frères juifs qui sont assez nombreux dans la cité phocéenne.
Karim de Broucker.
La nouveauté me semble résider beaucoup dans les formes de vie urbaines du monachisme aujourd'hui. C'est vrai que c'est né très récemment, au XXe siècle, et il y a tout un foisonnement d'initiatives dans ce sens. Les communautés de Jérusalem, le nouveau monachisme aux États-Unis, dans les banlieues des grandes villes. Et puis la plupart des fondations monastiques dans le monde aujourd'hui, comme la nôtre, sont souvent de toutes petites structures, très humbles, très pauvres, simples. Ça me semble être nouveau également. On peut penser aussi aux moines de Tibérine en Algérie, qui ont choisi une vie simple. Ça me fait passer une autre forme de nouveauté qui surprend les gens très souvent quand ils nous rencontrent. C'est la participation à la vie, y compris professionnelle, des gens d'aujourd'hui et l'engagement solidaire vis-à-vis des voisins. Ça aussi sont de nouvelles caractéristiques saillantes dans les nouvelles fondations monastiques qui sont souvent dans les pays émergents, souvent avec une part de travail professionnel en dehors de la clôture. On voit ça aussi à Bozé, que je comprends aussi dans cette mouvance qui essaie de promouvoir un certain aggiornamento monastique. Et dans ces pays émergents aussi, bien sûr, il y a à chaque fois un engagement solidaire qui ne prend pas tout le temps, bien sûr, mais qui est là et bien réel avec les voisins. La simplicité de vie elle-même me semble être une nouveauté. Les gens sont toujours assez surpris sur le plan très extérieur des apparences, mais enfin, ça fait partie des réactions des gens qui nous rencontrent. Ils disent « Ah, ben, vous n'avez pas d'habits ?» Ben non, effectivement, on n'a pas de déguisement du Moyen-Âge particulier, ce genre de choses. Et ben, on est habillé comme les gens d'aujourd'hui, ce qui d'ailleurs, comme souvent aime à le rappeler Henri, se trouve dans la règle de Saint-Benoît qui dit explicitement « Vous prendrez les vêtements des gens du lieu ». Voilà, donc cette simplicité même est aussi une forme de nouveauté pour les gens. Donc, pour résumer, petitesse, situation dans les villes ou à la banlieue des grandes villes, simplicité de vie, travail hors clôture et engagement solidaire avec nos voisins.
Alors, vos voisins, précisément, c'est quelquefois des chrétiens, mais le plus souvent, c'est plutôt des musulmans, peut-être des juifs aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler avec d'autres religions ?
On n'est pas venu ici pour convertir des musulmans, par exemple. Mais il se trouve que dans les banlieues de nos grandes villes aujourd'hui, il y a des musulmans. Alors, on les côtoie le jour. Et comment je le vis ? Eh bien, je le vis comme quelque chose de vraiment passionnant. C'est une rencontre qui oblige à une certaine assaise pour essayer de comprendre l'autre tel qu'il est, un certain dépouillement, et en même temps qui oblige à approfondir sa propre tradition religieuse. Il y a une tentation qui est de dire, en fait, toutes les religions, c'est la même chose, on a tous le même Dieu, etc. Et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce qu'en réalité, ce n'est pas respecter l'autre. Il faut aussi vivre dans nos différences, les accepter, apprendre à les reconnaître. Ça nous évite déjà tout simplement des bévues dans nos rapports avec les musulmans. Et puis, eh bien, il y a tout type de positionnement, de croyances aussi chez les personnes que nous côtoyons. Il y a des gens qui sont de confession musulmane, mais qui pratiquent leur religion à différents niveaux. Des gens qui sont simplement pratiquants traditionnels, d'autres qui sont athées ou agnostiques.
Henri Quinson.
Je crois que c'est assez redoutable ce qu'on a à vivre, et en même temps, c'est difficile d'échapper à cette question de l'altérité, notamment confessionnelle, mais culturelle, sociale, ethnique, parce qu'on parle tout le temps de la mondialisation, mais la mondialisation, très concrètement, c'est pas simplement la délocalisation de certains emplois, mais c'est aussi la présence de plus en plus massive, pourrait-on dire, pour ce qui est des grandes villes, de gens qui sont venus dans nos pays avec des horizons culturels différents. Voilà, c'est une réalité, il faut vivre avec. Alors, soit on vit avec en se disant « Ouh là là, c'est horrible, c'est terrible », ou alors on est menacé, on est envahi, ou alors on se dit « C'est une occasion absolument extraordinaire dans nos pays laïcs de pouvoir, sur le plan confessionnel, se retrouver ». Un peu sur terrain neutre, pourrait-on dire, et puis peut-être revoir des grandes questions qu'on n'a pas su vraiment aborder de manière positive dans les siècles passés, puisque en fait il y a un lourd contentieux, quand même, il faut le dire, entre les deux rives de la Méditerranée, alors qu'en fait c'est un lac qui devrait plutôt nous rassembler, ne serait-ce que pour des raisons d'intérêts commerciaux, mais aussi parce qu'il y a une véritable histoire commune. Est-ce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, du fait que tous ces univers apparemment différents sont en interaction et même habitent les mêmes immeubles. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement en profiter pour approfondir notre théologie, c'est-à-dire notre représentation de Dieu et notre représentation aussi de l'homme, notre anthropologie? Et donc, nous, je crois qu'on n'essaye pas de sauter au-dessus de cet obstacle, parce que, comme le disait Karim, il y a des différences théologiques, par exemple, entre musulmans et chrétiens. Alors, sauter au-dessus de l'obstacle, par exemple, du mystère de l'incarnation pour arriver à se mettre d'accord, c'est probablement pas possible. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas passer en dessous de l'obstacle? Est-ce qu'on ne peut pas suivre ce que Dieu lui-même a fait pour finalement rencontrer l'homme? Il s'est fait homme. Alors, il ne s'agit pas de se faire musulman, mais il s'agit de se faire voisin des musulmans pour vivre une expérience humaine commune. Et à partir de notre commune humanité, déjà, trouver des expériences positives et un langage commun, pas forcément verbal d'ailleurs, qui nous permettent d'éprouver vraiment le fait que, voilà, on est frères et sœurs et que même on aurait peut-être envie, si jamais il y a un paradis après la mort, de se retrouver ensemble. Et ça, ça va forcément nous entraîner assez loin, justement, dans les discussions théologiques, qui sont rarement des grandes discussions théologiques explicites et interreligieuses, mais plus souvent des petites discussions familiales intra-religieuses, c'est-à-dire que face, justement, à cette réalité de l'altérité, qui peut être rencontrée en regardant la télévision, qui peut être rencontrée à l'école, mais malheureusement, les écoles, ici, souvent, sont un peu monoculturelles, tellement l'espace des villes, maintenant, subit une forme de ségrégation, eh bien, plus on introduit d'altérité, plus on fait se rencontrer des mondes, plus les gens sont obligés de se poser la question, bon, mais qu'est-ce qui est l'essentiel dans ma tradition religieuse et en quoi elle répond à une aspiration très fondamentale, je le pense, des hommes, c'est l'unité justement de l'humanité. L'humanité qui est une, notre commune humanité qu'on peut éprouver à travers la maladie, la vieillesse, l'amour, la mort. Comment se fait-il que nous soyons séparés, que nous ayons des représentations de l'autre qui nous placent comme ça en opposition ou en concurrence? Donc arriver à vivre ça sur le plan théologique pour des chrétiens, ça veut dire qu'on croit que oui, il y a une Église, mais on croit aussi qu'il y a un royaume de Dieu qui dépasse les frontières visibles de l'Église et que tout homme est notre frère. Et donc notre mission, c'est de devenir frère de tout homme. Maintenant, il peut y avoir des difficultés parce qu'on ne va pas se comprendre, etc. Mais en ayant cette expérience concrète d'un voisinage dans la durée et la proximité, c'est créer des conditions pour qu'on puisse peut-être aborder ces questions théologiques dans l'amitié, dans la confiance. Et je crois que tout le monde peut faire l'expérience que si on veut faire un reproche à quelqu'un ou l'inviter à changer telle ou telle chose, ça n'est possible que si on lui a d'abord donné des gages d'amitié. Et une personne qui nous aime aussi, après avoir montré concrètement qu'elle nous aime, elle peut se permettre un certain nombre de libertés. Donc quand on parle du dialogue interreligieux, il me semble qu'au départ déjà, il faudrait être capable de pouvoir se faire confiance, de se reconnaître, et quand on prend la parole, de ne pas tout de suite mettre ça sous le vocable de islamophobie, néocolonialisme, impérialisme, ou à l'inverse, les croisés, etc. Donc pour sortir de ce langage, ça suppose vraiment de faire cette expérience concrète de fraternité. Je crois que c'est plutôt dans cette direction que nous, on s'est orienté prioritairement.
Karim de Brouckère.
Actuellement, il y a un énorme défi qui est lancé aux religions, c'est que, comme pendant des siècles, on leur a reproché tous les maux et toute la violence de la Terre, aujourd'hui, elles ont l'occasion unique de prouver que la paix dans l'humanité peut naître d'elle. C'est-à-dire, elles disent sur tous les tons que chacune sont des religions de paix, et bien qu'elles le montrent à l'humanité aujourd'hui, elles en ont bien besoin. Et sur ce chapitre, dans notre quartier ici, une petite anecdote, à l'aide aux devoirs avec les enfants, dont les trois quarts sont d'origine musulmane, un des grands débats, un soir, à la table des devoirs, eh bien, les frères Jean-Paul, Henri, Jean-Michel et Karim, oui ou non, iront-ils en enfer? Alors, c'était un gros débat. Certains disaient, non, ils sont chrétiens, donc automatiquement, ils vont en enfer, pas de problème. Et d'autres disaient, non, moi, mon imam, il m'a dit que Dieu seul est Dieu, et c'est Dieu seul qui décide des cœurs. Et voilà, puis les choses en étaient restées là. Mais ça s'est passé dans une grande détente. Et ça tournait à la franche rigolade à la fin, les uns s'imaginant en enfer, etc. Et puis, quelques jours plus tard, deux de nos petites voisines sont descendues radieuses en disant « Mon papa, il a dit que vous pourrez aller au paradis parce que vous êtes gentil », avec l'accent marseillais. Voilà.
Ça, c'est de la théologie. Ce n'est pas du dialogue interreligieux, mais c'est du dialogue intra-religieux sur la base du témoignage. Et dans les évangiles, on a le chapitre 25 de Matthieu qui explique bien que les gens qui vont au paradis ne sont pas nécessairement ceux qui sont allés à l'église, à la synagogue ou à la mosquée, mais ceux qui ont accueilli l'étranger. Il y a des gens qui arrivent et qui disent « Moi, j'ai parlé de toi, j'ai fait mes prières, etc. » Je ne vous connais pas. J'ai été étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il donne 6 exemples très concrets.
C'est Matthieu 25, hein ?
Matthieu 25, voilà. Et à l'inverse, il y a des gens qui croyaient que Dieu n'existait pas, qui ont peut-être milité pour telle ou telle forme d'athéisme et qui ont justement été des frères pour leurs voisins, leurs proches, et eux sont accueillis au paradis. Donc quand un enfant dit finalement, après discussion, vous pouvez peut-être aller au paradis, ça veut dire que c'est sur le critère de la charité fraternelle. Et donc, de fait, il y a conversion à Matthieu 25. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas besoin de demander le baptême pour devenir catholique ou rejoindre une église protestante. Mais de fait, ils sont acquis à cette idée que ce qui compte, c'est l'amour fraternel. Alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup de chrétiens qui n'en sont pas encore là, qui vont penser qu'il faut absolument être capable de réciter son credo le dimanche ou faire ses études bibliques. Voilà. Mais il se trouve que dans l'évangile, c'est pas forcément, il n'y a pas que ça, quoi. Donc ça, c'est très important d'en faire l'expérience. Et que les gens progressivement soient convertis à cet évangile-là. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle de la fraternité.
Pour moi, ça a toujours été intéressant de penser au rapport du Christ et des gens des autres religions qu'il était amené à côtoyer. Et des gens d'autres religions l'amènent même, comme la cananéenne par exemple, à changer d'orientation dans sa propre mission. Ça, c'est assez fascinant. Au début, il répond à la cananéenne qui lui demandait de s'occuper de sa fille. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il faudra en repasser un autre moment, on vous écrira. » Et puis, elle insiste et trouve des arguments qui arrivent à fléchir le cœur du Christ. Et lui-même se sent finalement appelé à s'occuper, y compris de la fille de la cananéenne. Et ça réoriente toute sa mission. Donc, il faut être attentif à ce que fait l'Esprit de Dieu dans les cœurs entre nous, les croyants des différentes religions et confessions. Les religions ont fait tellement de bêtises dans les siècles passés qu'elles ont l'occasion unique de se racheter aujourd'hui en conduisant l'humanité vers la paix qu'elles professent tant.
Comment ?
Eh bien, en commençant par de toutes petites initiatives au niveau local. Ici à Marseille, il y a par exemple Marseille Espérance. Autour du maire se réunissent des représentants de chacune des grandes religions présentes à Marseille pour adresser un communiqué et en faire un message à l'adresse de leurs fidèles. Ensuite, chaque responsable répercute cela à sa base et de petites choses avancent. Et petit à petit, ça crée une culture commune. Alors ça se fait ici au niveau municipal. Chacune des religions devrait beaucoup insister sur la formation de chacune et de chacun de ses membres, la formation à sa propre tradition religieuse. Ça ferait disparaître beaucoup d'obscurantisme et d'ignorance, d'abord sur sa propre religion. Ça aiderait chacune et chacun à mieux la comprendre, donc à l'aimer. Et on sait que la violence naît de l'incompréhension et du manque d'instruction. Donc c'est une piste parmi d'autres.
Je pense que les traditions religieuses, normalement, devraient nous conduire à la réalité. Donc c'est peut-être des utopies au sens où c'est des forces transformatrices du monde, ça je le crois profondément.
Henri Quinson.
Mais en même temps, si elles arrivent à transformer le monde, c'est qu'elles sont une réponse au désir profond du cœur humain. Et je crois que si on prend du recul, on peut regarder l'histoire du monde comme l'élimination progressive, successive, de toute une série de traditions religieuses. Il y a beaucoup de dieux qui sont morts, on n'y croit plus. La réalité finit toujours par nous rattraper, et donc toutes les traditions religieuses qui sont encore vivantes aujourd'hui, de toute façon, sont appelées à une conversion permanente, c'est-à-dire à être capable d'exprimer de manière pratique, que ce soit sur le plan cultuel, mais que ce soit aussi sur la vie des croyants dans leur rapport aux autres, aussi leur manière de réfléchir les grandes questions du mystère de la vie, dans la mesure où elles ne font pas ce travail, parce qu'on est dans un monde en crise, mais les religions elles-mêmes sont en crise. Donc elles sont en transformation, elles sont en mutation, dans la mesure où elles arrivent à répondre aux attentes du cœur humain pour assumer ou accompagner et puis, je dirais, porter à son achèvement notre rapport au réel, c'est dans ce travail-là que les unes et les autres peuvent accoucher à la fois d'un monde meilleur, mais aussi répondre à la question de leur propre survie, qui n'est pas la question au fond, parce que si on peut se passer de religion, très bien. Mais par contre, si l'homme, pour être parfaitement en adéquation avec les désirs profonds de son cœur, a besoin de cette expression religieuse, il faut qu'elle puisse traverser ces crises, qui sont à mon avis des crises de développement similaires à celles d'un individu. Et bien c'est toute l'humanité qui progressivement accouche d'une certaine vision du monde, d'une vision de Dieu, d'une vision d'elle-même, et que donc c'est assez redoutable. Les gens peuvent être tentés par un repli identitaire, se dire il faut faire comme avant parce que c'est plus sécurisant, mais je crois qu'au bout du chemin il y aura au contraire un surcroît de réalisme, mais ça peut être aussi un surcroît de poésie, de beauté, de fraternité. À mon avis les deux vont ensemble, mais c'est au prix de ce passage un peu difficile, désarçonnant, qui a des éléments de nouveauté, mais c'est aussi ce qui est très intéressant dans ce qui se passe dans le paysage religieux aujourd'hui.
Henri Quinson et Karim Debrouckère, tous deux moines à la fraternité Saint-Paul dans la banlieue nord de Marseille. Alors Sabine Petermann, c'est avec vous que nous avons rencontré ces deux personnages emblématiques. Mais alors justement, le livre qu'a publié Henri Quinson a eu un succès de librairie énorme, nous l'avons dit cette semaine. Il a été assez bien relayé dans les médias aussi. Pourquoi est-ce qu'il fascine autant en fait? Pourquoi est-ce que son parcours personnel et cette implication aujourd'hui dans les banlieues fascinent autant?
C'est difficile à dire, mais on peut imaginer que la publication de ce livre juste au moment de la crise financière en automne dernier est peut-être la raison. C'était le moment opportun pour intéresser les gens parce que ça remet en question fondamentalement tout le système dans lequel on vit. Et je pense que les gens se posent des questions aujourd'hui parce qu'il y a une certaine déstabilisation face à un système qu'on croyait immuable. Les marchés financiers qui semblaient être la panacée.
En même temps, c'est visiblement le profil de Henri Quinson qui fascine. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui avait de la réussite et qui décide de tout laisser tomber pour faire un choix de vie de pauvreté. Et ancré dans la spiritualité, est-ce que ça traduit une envie peut-être dans la société aujourd'hui de ne plus dépendre de choses autant matérielles,
par exemple ? On peut imaginer, parce que je pense que la question de la spiritualité est quand même maintenant souvent, elle apparaît souvent dans les débats, dans les réflexions qu'on se fait sur le choix de société. Donc c'est vrai que ça, c'est un parcours hyperbolique au fond, emblématique d'un changement, d'un retournement qui fascine peut-être.
Un parcours de vie qui dit quelque chose. Merci beaucoup Sabine Petermann pour nous avoir proposé cette série. Je rappelle le titre du livre d'Henri Quinson, Moine des cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille. Livre paru aux éditions Nouvelle Cité qui avait donc reçu le prix 2009 de littérature religieuse. Merci à Françoise Yeni pour la réalisation de ces émissions et merci aussi à nos assistantes de production Idlet Salzman et Denise Fischer. La semaine prochaine, A Vue d'Esprit vous invite à découvrir l'histoire des chrétiennes, histoire avec un grand H, une série proposée par Evelyne Auberçon. C'est sur Espace 2 dès lundi à 16h30. Votre après-midi continue sur Espace 2, mais nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bon week-end.
Espace 2, la vie côté culture. La vie côté culture.